La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
J'ai à nouveau avec moi aujourd'hui Stéphane Guillotot, qui est radioastronome à l'Université de Bordeaux et qui est actuellement président du conseil d'administration de l'IRAM, l'Institut de radioastronomie millimétrique, dont nous vous avons parlé la semaine dernière, qui a son siège à Grenoble. Et aujourd'hui, eh bien, on va vous parler de ce très grand télescope, ou plutôt ce grand réseau d'antennes de radioastronomie qui est ALMA, Atacama Large Millimeter Array, qui est situé au Chili à 5100 mètres d'altitude sur le haut plateau de Chajnantor à côté de San Pedro de Atacama. Bonjour à nouveau Stéphane.
Bonjour Sylvie.
Pourquoi aller si haut pour faire des observations astronomiques? Parce que les gens pensent on va plus près des étoiles, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est simplement qu'on a moins d'atmosphère au-dessus de la tête, n'est-ce pas? C'est ça qui est important.
Tout à fait. L'atmosphère nous gêne en deux choses. Elle absorbe la lumière, tous les rayonnements venus des étoiles, plus ou moins. Et aussi, elle trouble la direction dans laquelle cette lumière se propage. En raison des turbulences dans l'atmosphère, les images sont un peu floutées par l'atmosphère. Plus on est haut, moins on a de problèmes de ce genre-là.
Donc, ce qui pose des problèmes, des difficultés aux êtres humains qui vont faire des observations là-haut. Mais en fait, les gens qui sont là-haut, ce sont surtout les techniciens pour la maintenance des antennes. On va peut-être discuter un petit peu de comment c'est là-haut, sur ce plateau-là. Combien il y a d'antennes? Qu'est-ce qu'on fait avec? On les déplace? Parce que je crois que plus la distance entre les antennes est grande, plus on voit les objets célestes avec une grande précision. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? D'abord, combien il y a d'antennes là-haut?
Alors, ALMA, c'est un réseau qui comprend 66 antennes. Il y en a 12 de petite taille, entre guillemets, 7 mètres de diamètre quand même, et toutes les autres ont 12 mètres de diamètre, donc sensiblement plus grandes. Ces antennes, on est capable de les bouger sur des distances qui vont de l'ordre de quelques centaines de mètres jusqu'à 15 km entre les antennes les plus éloignées. Et au fur et à mesure du temps, on déplace les antennes pour explorer toutes les distances possibles entre les deux extrêmes. Ça nous permet de synthétiser l'équivalent d'un télescope de 15 km de diamètre quand on veut regarder des choses avec beaucoup de précision, ou au contraire, de rassembler toutes les antennes de la façon la plus compacte possible pour faire comme si on avait une antenne pratiquement complète de 150 mètres de diamètre.
Alors il faut peut-être rappeler donc, que ce sont ce qu'on appelle des ondes radioastronomiques, c'est-à-dire qui nous arrivent à la vitesse de la lumière, mais à des longueurs d'onde beaucoup plus grandes que les longueurs d'onde de la lumière visible. Donc quel est l'intérêt d'observer des objets célestes dans ces ondes plutôt que dans les ondes visibles? Qu'est-ce que ça nous apporte de différent, de nouveau?
Alors le visible nous permet de voir qu'une toute petite partie de l'univers. Il nous permet de voir que les objets très chauds comme les étoiles. A l'inverse, les longueurs d'onde radio nous permettent de voir tous les milieux qui sont considérablement plus froids. Les étoiles, typiquement, ça a une température de l'ordre de quelques milliers de degrés, alors que l'essentiel du milieu entre les étoiles est à des températures très basses, de l'ordre de 10 degrés au-dessus du zéro absolu, donc moins 270 degrés Celsius. Les longueurs d'onde radio sont les seules longueurs d'onde auxquelles on peut étudier ce milieu très froid.
Alors donc, cette ALMA est en place, en fait, depuis quelle époque? Bon, je sais que c'est comme l'IRAM, comme tout, ça, depuis le début, ça a évolué, mais les premières antennes là-haut, c'était à quelle époque?
ALMA, paradoxalement, c'est un projet qui, compte tenu de sa taille, a été fait relativement rapidement. Le premier concept a émergé en 97-98 de la synergie entre des projets qui étaient conçus aux États-Unis, en Europe ou au Japon. Chacun avait une idée un petit peu différente, et compte tenu de l'ampleur du problème, tout le monde s'est dit, il vaut peut-être mieux se mettre ensemble pour faire un bon instrument qui fasse l'essentiel des choses, plutôt que d'essayer de faire trois petits instruments séparés qui ne couvriront jamais tout ce qu'on est capable de vouloir faire.
C'est quand même magnifique, peut-être s'arrêter un tout petit peu là-dessus, de penser que tellement de pays du monde, parce que tu disais qu'il y avait des participants un petit peu de tous les continents, tellement de gens, donc d'agences scientifiques en fait, de tous les pays du monde, se sont mis d'accord et ça a marché pour faire un seul instrument commun à tous. Ça veut dire qu'il y a des antennes qui ont été financées par certains pays. Je sais qu'il y a un certain nombre d'antennes financées par le Japon, par exemple. Et puis aussi après pour l'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des observations. On peut peut-être dire un petit mot sur la manière dont ça fonctionne, ça. Si on veut faire des observations avec ALMA, comment ça se passe? Et ça doit être un petit peu un casse-tête quelquefois par rapport à tous ces pays, de savoir qui fait quoi et comment ensuite c'est rediffusé dans les divers pays. Comment ça se passe?
L'opération d'ALMA est effectivement assez compliquée parce que le projet n'est pas monolithique. Il n'y a pas un grand institut qui s'occupe de tout. Au contraire, chaque contributeur fournit une partie des éléments et fournit un support pour que l'ensemble du télescope fonctionne. Et au point de vue des observations elles-mêmes, donc il y a un personnel qui est chargé au Chili de les effectuer et de redistribuer ces observations à l'ensemble de la communauté. Chaque partenaire reçoit un temps d'observation équivalent à la proportion de sa contribution financière, en fait. Mais de toute façon, au bout d'un an, les données sont publiques et tout le monde peut y accéder.
Ça, c'est fabuleux, ça. Ça veut dire que n'importe quel astronome qui sait travailler sur ce genre de données peut y avoir accès et faire un travail avec, même s'il n'a pas du tout participé à l'instrument.
Tout à fait. Bon, il y a quand même un minimum de connaissances à avoir pour faire ce genre de travail. Et la difficulté, c'est souvent que les observations qui ont été faites n'ont pas été prévues pour ce qu'un astronome voudrait en faire réellement. Donc il y a toujours, quand on n'est pas la personne qui a conçu l'expérience et l'observation proprement dite, c'est toujours plus difficile.
Alors ce que tu me dis là, ça me fait penser à quelque chose qui m'importe énormément, c'est l'expérience qui le montre, c'est que très souvent, les très grandes découvertes se font par alors, ce qu'on appelle sérendipité, qui ça veut dire quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est-à-dire on fait des observations dans un but et finalement on s'aperçoit de quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé et qui conduit à des découvertes importantes. Donc c'est, comment dire, si quelqu'un étudie des données qui ont été obtenues par quelqu'un d'autre dans un but particulier, ça ne l'empêche pas de faire éventuellement des découvertes sur le sujet. Mais en fait, tu m'as dit que quand ALMA a été conçu, pendant la conception d'ALMA, il y avait trois buts principaux. On se disait qu'il fallait absolument obtenir avec ce nouvel instrument.
Effectivement, pour concevoir l'instrument et donc transformer l'idée des astronomes d'un grand télescope en quelque chose de concret, on s'était fixé à l'époque trois objectifs bien précis. Le premier, c'est la capacité d'obtenir l'image d'un disque autour d'une étoile très jeune, un disque où vont se former des planètes, avec la précision suffisante pour savoir comment les planètes se forment. Le deuxième, c'était la possibilité d'observer la formation d'une galaxie similaire à la nôtre dans les premiers instants de l'univers, dans les premiers milliards d'années de l'univers. Et le troisième était un peu plus générique, c'était d'obtenir des images de la même qualité que celles des meilleurs télescopes optiques, mais cette fois en longueur d'onde radio.
Donc l'étude de la formation des jeunes galaxies comme la nôtre, l'étude de la formation des systèmes planétaires. Personnellement, je m'intéresse beaucoup à cette formation des systèmes planétaires et avec ALMA, il a été possible, et ça continue, et ça fait, je crois que la première fois, c'était il y a une dizaine d'années, d'observer les détails de systèmes planétaires en formation. C'est-à-dire qu'on voit un disque, qui est en fait un disque de poussière, c'est pour ça qu'on le voit avec ALMA, c'est parce que c'est l'émission radioastronomique des poussières autour d'une étoile en formation. Et alors, dans ce disque, on savait que les étoiles se formaient avec des disques autour, on l'avait déjà vu par ailleurs, en infrarouge. Mais là, dans ce disque, on voit des détails extraordinaires, on voit des traces de planètes en formation, hein, c'est ça?
Effectivement, et c'est un bon exemple de ce que tu disais tout à l'heure, de découverte un peu par hasard. Donc l'existence de ces disques était connue grâce à l'interféromètre de l'IRAM, essentiellement. mais on n'avait pas suffisamment de détails sur la structure de ces disques. Et à la première observation faite avec ALMA à très haute résolution angulaire d'un disque comme celui-ci, tous les astronomes ont été surpris de trouver des sillons dans ces disques-là, des sillons qu'on interprète comme étant la trace de planètes qui sont soit déjà formées, soit juste en formation. Ça reste encore un peu un mystère. On ne sait pas si tous ces sillons sont liés à des planètes. Il y a peut-être d'autres mécanismes aussi. Mais ALMA a de ce côté-là un peu révolutionné le sujet en montrant que la formation des planètes, ça commence très très tôt, beaucoup plus tôt que ce que l'on pensait avant.
En tout cas, je connais des équipes d'astronomes qui travaillent sur ce sujet, qui se demandent si chaque sillon observé est la trace d'une planète, ou bien si les planètes sautent d'un sillon à l'autre, par exemple, des choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on avance énormément dans la compréhension, mais on peut dire dans la compréhension aussi de la formation du système solaire, parce que notre système solaire et la Terre avec les autres planètes se sont formées de cette manière-là, dans un grand nuage de gaz qui s'est condensé en tournant et qui a formé une étoile avec des planètes autour. Donc je crois qu'on va rester sur cette conclusion, et merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations de ce qu'est la radioastronomie et les grands instruments qui permettent d'observer le ciel en radioastronomie. Merci.
Merci beaucoup.